Flash.
Un mercredi sur deux à 19h sur Radio G. Il est 19h sur Radio G. Vous écoutez Pop Flash. Désolé, j'ai eu un petit problème avec les micros parce que, Mais on se retrouve pour cette avant-dernière émission de l'année. Enfin, de l'année, de la saison, pour être plus exact. Et comme d'habitude, je suis accompagné par Mel. Coucou Mel.
Coucou.
Et par Claire.
Hello.
Et aujourd'hui, gros programme. Alors évidemment, on va parler de jeux vidéo, on va parler de BD. On va parler de jeux vidéo avec Mel et un peu avec moi. On va parler de BD avec moi. Et après, on va parler de musique avec Claire. Mais plus sérieusement, on va commencer sans plus tarder parce que qui dit grosse émission dit qu'on a beaucoup de choses à dire. Et on va commencer tout de suite avec Mel. Vas-y Mel.
Alors aujourd'hui dans Game Pop, on va parler de deux dramas concernant deux jeux qui sont très 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 attendus. Alors on va commencer par le premier jeu qui est GTA 6. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des deux controverses qu'il y a, mais la première concerne le mode physique du jeu. Donc, quand on l'achète, puisqu'en fait, les gens ont pu le précommander. Ils ont pu le précommander en physique, parce qu'en fait, les boîtes avaient simplement un ticket de téléchargement à l'intérieur. Et on pourrait se dire, oui, mais c'est parce que c'est les précommandes, etc. Non, parce que même après les précommandes, ça sera comme ça. Il n'y aura pas de CD, par exemple, pour les PlayStation et tout ça. Il n'y aura pas de version physique, de cartouches, etc. Non, vous ouvrez votre petite boîte, et dans votre petite boîte, qu'est-ce que vous avez ? Un petit papier, tout moche, avec écrit un code que vous allez rentrer et puis après vous aurez le jeu.
Vous achèterez bien un peu plus de plastique, non ?
C'est un peu pour les DLC, genre.
Ouais, vraiment.
Non, mais. Et puis c'est pas tout, parce que du coup, ça concerne l'édition standard, mais c'est aussi pour l'édition deluxe et premium, pour les éditions collector et tout ça. Ça veut dire qu'en fait, t'achètes une boîte, waouh, trop stylée et tout, machin, tu l'achètes plus cher. Parce que tu te dis, bah voilà, j'ai envie de prendre l'édition collector. Bah au fait, t'as quand même un ticket où il y a juste un code de téléchargement dedans. Et les gens, bah, sont pas très contents parce que, bah, pour la collection, parce qu'il y a beaucoup de gens, mine de rien, qui adorent la collection. GTA 6, faut pas oublier que les fans et les joueurs de GTA 6, ce sont des adultes de la génération de nous dans l'émission de 25-30 ans, voire même plus, parce que GTA 6 c'est très vieux, et enfin, c'est vraiment assez vieux, et que ceux qui jouaient quand ils étaient adolescents, bah, maintenant ce sont des bigs adultes. Et les bigs adultes, eh bah, quand ils étaient adolescents, ils avaient leur cartouche dans leur jeu, ils avaient leur CD, et c'est ce qu'ils veulent encore. Même moi je le vois quand j'achète des jeux en physique. Je veux ma cartouche, je veux pas un bout de papier. Alors peut-être que je suis une vieille rétro et que je suis une vieille boumeuse, etc. En mode, c'était mieux avant, je veux pas un bout de papier, etc. Machin, etc. Mais bon, dans ce cas-là, à quoi ça sert d'acheter la version physique?
Non mais, puis il y a une question plus loin que ça. On l'a vu, Nintendo Store qui a fermé tout le Nintendo Store des jeux 3DS. Tous les gens qui avaient acheté sur le Nintendo Store ont perdu leur jeu. Oui. C'est plus possible. Et du coup, GTA, ce sera pareil. En fait, c'est quand il va sortir, ça va, Youplamoon, tout le monde est content, là encore. Mais qu'est-ce qu'on fait dans 5 ans?
Ben, c'est ça.
Et c'est ça tout le problème, c'est qu'actuellement, en fait, on n'achète pas un jeu, on le loue.
Je crois qu'on a l'autorisation de l'utilisation. Je crois que c'est un truc comme ça qui est marqué.
Ça n'a aucun sens vu que tu payes.
Cher en plus.
L'édition standard du jeu, vous savez à combien c'est? L'édition standard, hein, entre 70 et 80 euros.
Non,
sachant que du coup, pardon, je t'ai coupé.
Non, j'allais dire, en plus c'est GTA quoi. Enfin, genre, c'est vraiment le genre de truc où tu ramènes ta putain de boîte à ton pote quand tu vas jouer chez lui, tu ramènes ta putain de console, enfin, t'as juste ta putain de manette, vous jouez ensemble, bah là tu peux pas. C'est un code en fait.
Et c'est un code, et encore une fois, si t'étais pas sur un serveur et qu'il y avait genre juste une version single player ou genre juste en local, et que du coup en fait tu télécharges le jeu et que le jeu est à toi. Parce que, imaginez, vous achetez votre jeu, il n'y aurait pas de souci en soi que ce soit à des maths. Mais.
Alors, il n'y aura pas de online au début du jeu. Ça ne sera pas du GTA 6 online, etc. Il n'y a pas de...
On rappelle que dans la version juste deluxe, ils te disent qu'il y a un mois de online offert.
Tu es en train de me couper l'herbe sous le pied. Bah, bravo le chroniqueur qui coupe sa chroniqueuse. Bah, bravo.
Il n'avait pas lu le texte.
Je suis merveilleux.
Non, mais du coup, la deuxième controverse au sujet de GTA 6, c'est justement ces éditions standard de luxe et je crois que l'autre c'est premium ou je sais plus quoi, ultimate, je crois.
Silver.
Ouais, non, mais
Silver
voilà.
Plus ultra.
Ouais, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui change du coup? Et ben en fait, dans l'édition standard, vous avez le jeu basique, etc., normal, mais dans la version premium, on va dire premium, donc plus cher, vous avez accès à des bâtiments qui ne sont pas accessibles au standard. C'est-à-dire qu'en fait, dans le jeu standard, il y aura un monde ouvert, parce que c'est la promesse. Par contre, les bâtiments du monde ouvert seront fermés. Sauf si vous avez la version qui coûte le plus cher. Par exemple, un coiffeur, un salon de tatouage, etc. Et donc, en fait, les gens râlent parce que ça, c'est déjà dans le jeu de base de GTA V. Donc, en fait, il n'y avait pas besoin de payer plus cher pour avoir accès à des bâtiments. Ce qui est assez logique, normalement. Voilà.
Alors, ton jeu au Sims, hein, du coup.
Voilà, c'est ça. tu installes le Wicked Mode et c'est pareil, en fait. Donc, le truc que les gens n'apprécient pas, c'est qu'en plus de ça, ils te disent, vous avez un mois d'abonnement offert, youpi, parce qu'au lieu de payer 80 euros, t'as payé 99 balles ton truc. Vous avez accès à des bâtiments que vous devriez pouvoir les avoir en standard, mais là, non, ils ont décidé que non. Mais attention, parce que vous aurez plein de skins limités, waouh, oulala, trop bien et tout. Sauf que ça passe pas, parce que les gens se posent des questions autour de ça. Parce que si ils font ce système-là, est-ce que ça veut pas dire qu'il va y avoir possiblement des microtransactions dans le jeu?
Quoi?
Ouais, les gens pensent que possiblement il va y avoir des microtransactions. Peut-être pas tout de suite, parce que bon, il faut attendre que le jeu se hype, etc. Donc il y aura peut-être pas tout de suite tout ça, mais ça risque de venir, les microtransactions, peut-être même il y a des gens qui spéculent sur des sortes de passes de combat, des battle pass, etc. Dans le jeu.
Pour avoir le droit de rentrer dans le pawn shop.
Voilà, c'est ça.
Non, mais ça se trouve, ils vont attendre que les gens fassent genre un mois de jeu, qu'ils s'ennuient, et ils vont être en mode « Ah, vous voulez plus de content dans le jeu ? Ah bah, achetez !»
Achetez la version de luxe.
Voilà. EA Game.
Non, mais voilà, donc... ouais,
vraiment, hein.
Bah, ça pose des questions, mine de rien, parce que... Bah, est-ce que c'est ça, l'avenir des jeux vidéo ? Les gens pensent que non, ils pensent que c'est juste Rockstar, donc le studio qui a derrière GTA 6, qui a fait ce système-là, qui est assez étonnant de leur part, parce que ils ont fait aussi tout ce qui est Red Dead Redemption et tout ça, et c'était pas comme ça avant. Du coup, les gens se posent aussi des questions sur le futur des jeux, notamment Red Dead Redemption 3, qui est très attendu et que les gens espèrent qu'il sorte un jour. Mais ils n'ont pas envie d'avoir des microtransactions dans leur jeu, quoi. Donc, un peu compliqué. Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu abusé quand même de, par exemple, limiter les accès aux bâtiments, genre coiffeur, etc. Parce que, en fait, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que c'est disponible. Ouais. Ce n'est pas genre un problème. Par exemple, un cas typique de certains mondes ouverts comme par exemple Zelda Breath of the Wild ou même Genshin Impact, il y a des bâtiments, sauf que en fait c'est que de l'esthétique, en fait tu peux pas rentrer dans tous les bâtiments, et encore maintenant ils font beaucoup d'efforts, etc. Mais par exemple dans les premières zones de Genshin Impact, t'as des maisons, tu ne peux pas rentrer dedans, c'est vraiment purement esthétique. C'est un côté très frustrant, mais Genshin a expliqué que c'est parce que au niveau moteur, au niveau développement, etc., c'était beaucoup trop compliqué à rajouter, ça demandait encore plus de travail. Là, GTA 6, ils te disent, Non, c'est pas parce que ça demande plus de travail ou quoi. C'est parce qu'on veut plus de thunes.
Et il y a un monde simplement. Où, comme c'est des, ce serait quand même majoritairement console, en plus tu pourras pas juste fouiller dans les dossiers du jeu pour essayer d'être mal.
Il est où l'intérieur du tattoo shop? Hein, il est où?
Ben c'est ça. Après, alors, voilà, il sera disponible sur Steam, il sera disponible sur PC, il me semble aussi.
Mais pas tout de suite.
Il va sortir d'abord sur PlayStation et tout ça. Donc, bah, les gens sont un peu.
Mais j'avoue que
mitigés, quoi.
J'ai du mal. Enfin, moi perso, GTA, pour moi, ça a toujours été console. J'ai un peu de mal à me dire, oh, je vais jouer un GTA sur mon PC.
Moi, justement, le fait que ce soit sur console m'a permis de jamais jouer parce que j'ai jamais eu
permis,
de
merci.
M'a empêché de jouer au jeu parce que sauf si j'allais chez des copains ou des copines qui avaient le jeu, etc. Et donc là je pouvais y jouer, mais sinon je pouvais pas du tout y jouer, quoi.
Oui, bah
donc
de toute façon peut-être qu'ils sont en train de régler la guerre entre les consoles et les ordi, hein.
Ouais.
Après t'as rien loupé, hein, j'ai envie de te dire. Après San Andreas c'était pas,
alors
moi il y a beaucoup
entre
de gens
nous,
qui ont adoré,
il y a plein de gens qui ont appris à faire des créneaux grâce à GTA, hein.
Il y a plein de... Oui, oui, peut-être, hein, mais ça veut pas dire que c'est un bon jeu.
Je sais pas, mais il y a des bons créneaux maintenant.
Oui.
Je suis pas d'accord. S'il y a une grosse communauté, il y a un gros fandom, ça veut dire que ça plaît.
Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment FIFA, hein.
Oui. Après, il y a un gros fandom aussi qui fait du RP tout. Oui. Et je trouve ça genre hyper mignon. Parce que genre, t'es en mode, ouais, j'ai des jeux de gros durs et tout. Le nombre de gens, même de la communauté LGBT et tout, qui réussissent à faire des petits roleplays dessus, et puis ils sont juste en mode slice of life et tout, ils sont juste trop pipou.
Oui, oui. Et ben.
Ah, c'est vrai. Ouais, ok, d'accord.
Mais du coup, le pass online, pas immédiatement de toute façon, alors, donc ça va prendre du temps à se mettre en place sur.
À tes souhaits. Sachez que, en parlant de GTA Online et de choses mignonnes, il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui faisait un RP fantasy sur GTA Online. Il y a des fées, des elfes, des dragons, plein de trucs comme ça. Et j'étais là, mais c'est pas GTA ça. Et en fait, c'était incroyable. Et j'étais là, mais je veux trop y jouer du coup.
Mais, oui.
Mais voilà, ouais, c'était. Voilà, c'était pour les petits dramas. Vous allez acheter GTA 6 ou pas?
Moi, j'ai toujours dit. Non, t'as raison. Non. Non, c'est faux. Moi, j'ai toujours dit que je l'achèterais quand justement il y aurait. Enfin, j'achèterais une PS5. Et le jour où genre il y aurait GTA qui sortirait, ça a toujours été mon truc. Et en vrai, plus le temps passe, plus je me dis, ah, je sais pas en fait.
Ouais. Bah peut-être attendre, genre limite tu regardes des gameplay, des let's play sur les gens et tout, des streams pour voir. Moi, j'avoue que j'étais bien hype. Et puis finalement, je sais pas. Il y a aussi une autre petite controverse, c'est que le trailer, les images étaient magnifiques, graphisme incroyable et tout. Et là, ils ont sorti 60 images sur leur site Rockstar. Et en fait, les images sont un peu moins de bonne qualité par rapport au trailer. C'est un peu de moins bonne qualité. Et du coup, les gens sont un peu en train de se poser des questions, notamment sur le fait que Jason, donc le personnage principal, je crois que c'est ça le nom, ressemble à... Comment il s'appelle ? Le mec dans Red Dead ?
Ils ont récupéré le skin, genre ?
Oui.
Ouais, Rick, je crois qu'il s'appelle.
Non, c'est pas Rick.
Non.
J'oublie comment il s'appelle, mais...
Le mec dans Red Dead, ressemble étrangement...
Au
nouveau personnage de GTA 6, et beaucoup de gens ont dit en fait ils ont repris le même modèle 3D, etc. Et les gens sont mitigés concernant ça aussi. Enfin bref, ça je trouve que bon, voilà. Mais voilà, moi je pense que je vais attendre avant de l'acheter. J'ai pas de console, donc j'attendrai de l'avoir sur PC. Mais voilà. Et maintenant, on va passer à la deuxième actu. Le deuxième drama qui, moi, me fait bien chier, on va pas se mentir. Fable, le nouveau Fable 5, Fable Remake, dont on a déjà parlé, dont JR et moi, on a encensé le jeu parce qu'on était waouh. Et ça a un peu retombé comme un soufflet pour moi sur certains trucs. Et du coup, je suis en mode éthique ou plaisir personnel de fangirl de fable, puisqu'en fait, on a appris qu'il n'y aurait pas de doublage français dans le jeu, alors que dans tous les fables, il y avait un doublage français. Pourquoi il n'y a pas de doublage français dans le nouveau fable ? Parce que Microsoft. Et Microsoft a une clause qui dit que tous les doubleurs, peu importe le pays, hein, mais tous les doubleurs, quand ils signent la clause pour travailler avec Microsoft, les acteurs doubleurs devront signer un papier qui stipule qu'ils prêtent leur voix aux IA pour les entraîner.
Oh merde.
Et donc, par la suite, les remplacer par des IA. Voilà.
Super.
Génial.
La France a, il n'y a pas longtemps, sorti une association, je crois que ça fait même pas 2 ans qu'elle est sortie, qui s'appelle Touche pas à mon doubleur, il me semble que c'est ça, ou Touche pas à ma VF plutôt.
Oui.
Qui est sur les réseaux sociaux et sur Insta. Et du coup, les doubleurs ont tous refusé cette clause. Et c'est pour ça que du coup, il n'y a pas de doubleur français, qu'il n'y aura pas de doublage en français.
Mais un vrai Bixley, hein.
Mais Bixley à l'association Touche pas à ma VF et Touche pas et aux doubleurs qui ont refusé ça, parce que franchement, mine de rien, je pense que c'est aussi s'asseoir sur un paquet d'argent,
ouais.
C'est s'asseoir sur un salaire, c'est s'asseoir sur une renommée, c'est s'asseoir aussi sur certains, pour certains sûrement un rêve de gosse, parce que ce sont sûrement des gens qui adoraient Fable quand ils étaient gamins.
Ouais.
Franchement, bravo à eux, parce que vous le savez peut-être, peut-être pas, mais dans Flash, on est de moins en moins pour l'IA, encore moins pour l'IA générative, encore moins pour l'IA qui vole le travail de gens, de vrais humains, sachant qu'en plus c'est du moins bon travail et qu'en plus ça détruit la planète. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais du coup, les gens sont pas contents et ça pose aussi de nombreuses questions, parce que du coup, si Microsoft a ce genre de clause qui dit que il y a pas d'autres clauses ou d'autres choses qui ont été faites par IA générative dans le jeu et qu'on ne sait pas. Et ça pose vraiment des questions sur la transparence aussi du jeu, parce qu'en fait, au début, personne ne savait pourquoi il n'y aurait pas de doublage français.
C'est les doubleurs qui en ont parlé ?
Ouais, c'est les doubleurs qui en ont parlé. Et puis après, c'est Microsoft qui a fait une annonce en disant voilà, il n'y aura pas de doublage français, etc. Et quand les doubleurs français ont vu ça, ils se sont exprimés en disant oui, parce que la clause, en fait. Ça veut dire que du coup, les doubleurs anglais vont entraîner les IA.
Peut-être d'autres nationalités aussi. Oui. C'est ça qu'il faut retenir,
oui,
quoi.
C'est ça. Et en fait, ça veut dire que tous les pays qui ont signé, tous les doubleurs de pays étrangers qui ont signé sont en train de donner leur voix à des IA pour les remplacer, quoi. Et c'est dommage parce que ça fait écho aussi à un drama qu'il y a eu il y a pas longtemps sur WoW. WoW a utilisé de l'IA générative avec des voice actors qui avaient prêté leur voix justement et qui finalement ont été pris par l'IA et refait. Et c'est horrible. Vraiment, le personnage, il parle comme ça. Bonjour, je suis tel personnage. Comment allez-vous ? Un robot.
Oh, l'horreur.
Et ça casse toute l'immersion, c'est horrible. Et les gens ont dit, mais en fait, ça va pas.
Ouais.
Ça va pas. Et du coup, ça pose la question de, est-ce que j'achète Fable ? Et en achetant Fable, j'approuve techniquement leur clause.
Mais il y a beaucoup de pays qui m'ont refusé, je viens de regarder.
Ouais. Mais du coup, il y a France, Italie. Et je sais plus. Il y a pas mal de pays d'Europe qui avaient refusé.
France, Italie, Japon, chinois simplifié, donc je pense que c'est cantonais.
Ouais.
Espagnol et polonais, pardon.
Ah oui, c'est ça.
Donc en fait, en Europe, il y a l'Allemagne, enfin les Allemands qui ont dit oui.
Ouais.
Et sinon, il y a le portugais, brésilien et latin, l'espagnol, latin.
Okay.
Ouais.
Bon.
Mais ça sera surtout du anglais américain qui eux je crois ont signé sans souci, etc.
Est-ce que pas le choix, je pense.
C'est ça. En fait, je sais pas comment. Peut-être que les clauses sont pas pareilles aussi En Amérique?
Oh non, je pense que les mêmes. Je pense que c'est les mêmes clauses partout. Oui.
Je sais pas.
If not, ouais. Peut-être un peu plus précise encore, parce que eux, c'est le pays des trucs de loi. Donc en fait, nécessairement, si tu précises pas un truc dans ton règlement, c'est que t'es ok pour, en fait, pour eux.
C'est terrible. Enfin, moi, je trouve ça terrible. Après, chacun fait comme il veut. Je sais pas encore, du coup, si je vais acheter le jeu, parce que je suis vraiment en mode, j'ai pas envie de participer à l'entraînement de l'IA, mais du coup, bah, c'est déjà trop tard parce que ils ont signé. Donc, que j'achète le jeu ou pas, bah, l'entraînement à l'IA sera fait dans tous les cas. Mais est-ce que ça veut pas dire approuver ce genre de choses? Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas, toi, JR, si tu comptes acheter le jeu ou si, du coup, ça t'a refroidi.
C'est compliqué. C'est compliqué pour une raison qui va être très simple. C'est, déjà, de en acheter ou pas le jeu, ça dépendra surtout des retours qu'on va avoir. Encore une fois, on répète encore et encore et encore, ne précommandez pas les jeux.
Ouais.
Parce que bon, bah, tous les jeux peuvent être bien.
Ne faites pas comme moi qui avais mis en wishlist Fable à 99,99€.
Je pense pas que ça changerait quoi que ce soit qu'on l'achète ou pas le jeu, sincèrement. Parce que
s'il y a une bonne partie des gens qui disent non, j'achète pas le jeu parce que ça me dérange, il y a un monde, ils vont arrêter. Pas parce qu'ils vont se dire ah, on a eu tort, mais plus parce qu'ils vont se dire les sous.
Oui,
ils vont dire les sous, sauf que
c'est le principe du boycott.
Le problème là-dedans, c'est que je sens gros comme une maison que s'il y a un boycott, ce sera pas parce que. Ils vont pas dire que c'est à cause du IA, ils vont dire que c'est parce qu'il y a eu des personnages qui est avec des représentations et que c'est pour ça que les gens gueulent à la base et que c'est pour ça que les gens boycottent.
Si tu pars du principe que t'es contre l'IA, dans tous les cas, ça n'importe pas la raison pour laquelle les gens n'achètent pas le jeu. Ce qui compte, c'est que le jeu, entre guillemets, ne soit pas un succès et que toi, en tout cas, personnellement, t'es genre montré tes valeurs.
Oui, c'est vrai. Donc, la réponse, c'est que je sais pas.
Moi non plus, je sais pas. Toi, Claire, tu t'achèterais le jeu ou
je pensais déjà pas l'acheter, donc ça va rien me changer, tu vois. Mais par contre, effectivement, bon, de toute façon, ils nous aient déjà chier avec leur putain de compte Microsoft. Pardonnez-moi du gros mot, mais là, il faut le dire. Hein. Là, au moins, c'est un truc de plus. C'est très décevant et c'est très inquiétant pour le futur du jeu vidéo.
Oui.
Parce que, très clairement, c'est pas forcément dans le développement du jeu où on va trouver de l'IA, mais ça montre quand même bien que partout, et peu importe ce que tu fais, l'IA est forcément utilisée. Et franchement,
c'est surtout que j'ai l'impression, je sais pas, vous me dites, mais et après on passe aux chroniques suivantes, mais j'ai l'impression que les grosses boîtes vont tout faire pour mettre de l'IA générative peu importe où. On leur a dit on veut pas d'image d'IA générative dans le jeu, on n'en veut pas. Ok, du coup ils se servent d'IA générative pour s'inspirer pour les visuels.
Okay.
Bon, ok, on leur dit oui mais ça reste pas bien. Ils disent ok, et du coup là ils sont en mode bon ben du coup on va utiliser de l'IA générative pour les voix.
L'IA c'est une bulle et ils sont en train d'essayer de chercher tous les moyens pour que cette bulle n'éclate jamais.
Bah,
le problème là-dedans c'est qu'actuellement toutes les grandes entreprises, je viens de le voir là, c'est ça que je disais là au moment là, comment ça s'appelle encore, la maison mère de Claude qui est en train de dire qu'ils ont besoin de milliards d'euros sinon ils vont faire banqueroute, t'as ChatGPT qui a besoin de milliards d'euros sinon ils vont faire banqueroute. En fait là on est en train d'atteindre un niveau où l'IA dépense trop, ne gagne pas assez et détruit l'environnement. Donc forcément,
mais j'espère qu'ils vont faire banqueroute.
En fait,
je suis désolée,
on espère, sauf que si la bulle spéculative de l'IA fait banqueroute, c'est une crise économique qui sera énorme, qui va nous tomber dessus.
Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont commencé déjà à utiliser de l'IA, ce qui fait qu'il y a beaucoup de systèmes qui ne seront plus en place et qui ne marcheront pas. Et si beaucoup de boîtes se cassent la gueule, il y a beaucoup de pertes de jobs. Et s'il y a beaucoup de pertes de jobs, c'est encore plus compliqué économiquement parlant parce que les gens n'ont pas l'argent pour acheter des choses. Donc ça ne repart pas dans le système de taxes et ce genre de choses qui financent.
Et en fait, surtout quand on regarde...
C'est vraiment mis dans un sacré terrain avec
Nous, on n'a rien fait, c'est des grandes entreprises, mais notamment Nvidia qui est à fond
dedans. Quand je dis nous, c'est les humains.
Oui, et en fait, quand on regarde, c'est que cette bulle ne fait pas de profit. En fait, parce que chaque profit qui est fait par une partie de la bulle, en fait, est directement réinjecté dans une partie qui est directement réinjectée. En fait, c'est énormément d'argent qui tourne énormément et ils sont en train de regarder comment on fait de l'argent. Sauf que quand en fait on regarde, l'argent tourne en rond. Mais c'est pas, on fera un sujet tout de suite. On va juste passer à la deuxième partie de Game Pop, si ça dérange pas.
Non, vas-y, tu peux.
Je vais pour deux minutes, ça va vraiment aller très vite. C'est juste pour faire une petite recommandation. Est-ce que vous connaissiez Headliner Novi News?
Non.
C'est un petit jeu qui est sorti il y a quelques années, qui est un jeu qui, sincèrement, est un jeu en 2D. 2D et pixel art, et qui... alors, pour finir une partie, c'est une heure et demie. Et après, le jeu a beaucoup, beaucoup de rejouabilité. Qu'est-ce que c'est ? On est dans la tête, tout simplement, dans Headliner, donc dans, dans responsable de la, de tout ce qui est publication, le nom m'échappe maintenant, en rédacteur en chef d'une, d'un grand journal au Novistan. Et le jeu est assez simple, c'est tu vas avoir des articles et tu choisis ce que tu vas publier ou ne pas publier. En sachant qu'évidemment, tu as beaucoup de fake news, tu as beaucoup de trucs qui sont très orientés et tu as toutes les questions de... tu as d'autres personnages qui vont à côté, tu as une de tes collègues qui est d'origine étrangère et qu'on regarde mal. Du coup, est-ce que tu vas essayer d'orienter le journal pour être plus contre en fait toutes les idées d'un gouvernement qui est en train de tourner gouvernement fasciste ? Toute ressemblance est évidemment toute fortuite. Et qui du coup, est-ce que tu vas aller de ce côté-là et les gens vont la regarder de plus en plus mal, ou est-ce que tu vas plutôt essayer de faire ça, de pas faire ça, et du coup que les gens la regardent mieux, mais ça va avoir d'autres répercussions. Un truc tout bête, hein, dans ma partie, donc je l'ai fait une fois où Mel a fait une sieste.
Il fallait le préciser.
Mais c'était. Oui. Précision très importante.
Si Mel ne fait pas de sieste, il joue pas aux jeux vidéo. Donc, oui.
C'est complètement faux. Mais en gros, mon journal est resté indépendant. Par contre, mon patron s'est fait arrêter. Mon frère s'est fait arrêter parce qu'il était humoriste et qui du coup il a fait des blagues sur le gouvernement en place.
C'est pas drôle en fait.
Il se fait arrêter par la police et la police est en mode il te faut 2000 balles sinon on le fait pas sortir. Vu que toi t'as pas 2000 balles, bah un jour tu viens, ils sont en mode ah bah non, il a été effacé, il existe pas. Vous avez jamais eu de frère. Le président fait une espèce de grand meeting pour dire ça et du coup il se fait fumer. Du coup, il y a le début d'une guerre civile et toi, à la fin, bah, le gouvernement prend le contrôle de ton journal. Du coup, ils sont en mode, on va pas te buter, mais t'as plus de travail. Mais bonne nouvelle, j'avais un chien, un robot de compagnie, et j'ai réussi à sortir avec ma collègue qui était étrangère. Donc en soi, David Goudenoff.
C'est le Romeo et Juliette du truc papier.
Non, mais c'est vraiment genre, à un moment, j'étais en mode, je vais me faire fumer, c'est sûr que je vais me faire fumer. Et il y a toute une question aussi éthique du... en gros, on vit dans un pays où tu peux changer l'ADN de tes enfants pour qu'ils soient plus performants. Ouais, de l'eugénisme. Sauf que justement, la personne avec qui tu peux sortir dans la première partie, parce que plus tu fais de partie, plus tu débloques des PNJ avec qui tu peux interagir, du coup tes parties sont différentes. Et du coup, elle a fait de l'eugénisme sur son corps, sauf que son corps ne l'a pas supporté. Et du coup, à un moment, elle est en mode. Il y a toute une question. Là, c'est un truc. Tu choisis que du coup, il y ait une assurance sociale pour tout le monde. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de queues parce que le gouvernement n'a rien à foutre, il met pas d'argent dans les hôpitaux. Du coup, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de queues. Du coup, elle va faire la queue pour faire ça. Sauf que, étant donné que ça a pris trop de temps, en fait, elle a commencé à avoir des saignements internes. Ce qui fait qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Du coup, est-ce que t'aurais plutôt dû faire en sorte que du coup le gouvernement ne s'occupe pas de la santé des gens et que ça reste ça et que du coup elle puisse toujours continuer à avoir des enfants et être en bonne santé, ou est-ce que t'as fait pour le mieux en sachant que ton frère est dépressif, donc si tu fais pas ça, il finit par se suicider.
C'est intéressant en vrai, le jeu a l'air cool. Hein.
Le jeu est très cool.
Ça a l'air hyper cool, ça me donne envie d'y jouer. Il est sur Steam.
Le jeu est sur Steam, il coûte actuellement 8€. Normalement, il en coûte 13 et ça vaut absolument le coup. Vraiment, le jeu est très cool. Et évidemment, après, il y a toute une question aussi sur il y a un nouveau type d'alcool qui apparaît. C'est pas vraiment de l'alcool. En fait, ça te permet d'être bourré sans avoir la gueule de bois.
Ah.
Sauf que est-ce que c'est vraiment extrêmement addictif ? Est-ce que c'est extrêmement dangereux ? On sait pas. Je vous laisse le découvrir. Est-ce que tout ce qui est délinquance, on va plutôt dire que c'est les étrangers ou plutôt que c'est tout le monde, ou est-ce que c'est uniquement dans notre pays ? Le problème, est-ce que tu vas suivre la théorie du complot ? Parce que oui, évidemment, il y a des complotistes qui viennent et qui te commencent à te mettre des petits trucs sur ton bureau en mode, en fait, il y a peut-être des trucs que le gouvernement fait qui sont un peu shady. Et quelles répercussions ça va avoir du coup sur le pays? En sachant qu'à côté de ça, t'as quand même ta vie à côté, t'as ta petite boutique sur laquelle tu vas depuis des années, qui est en mode, j'en peux peur parce qu'il y a un centre commercial qui va ouvrir, est-ce que je vais réussir à survivre? Qu'est-ce qui va se passer avec ma fille? Et tout ça, et c'est comment t'interagis avec tout le monde, comment t'interagis aussi avec des SDF, du coup. Et c'est vraiment très cool, c'est un petit jeu. Moi, j'ai fait une partie, j'étais en mode, je suis très content des résultats que j'ai eu, mais je vais peut-être essayer d'en refaire une. J'ai beaucoup de mal à être un enculé dans les jeux vidéo. Donc, je pourrais pas jouer, je crois, full raciste, parce que juste. Vous voyez pas, mais je vois mon visage. Et voilà.
Je fais des signes haineux.
Et voilà, c'était tout. Est-ce que vous a donné envie d'y jouer?
En vrai, oui, mais faut que ce soit une soirée où je suis un peu relax, parce que sinon, je pense qu'il y a un monde où ça me stresse d'être en mode beaucoup de choses à penser. Alors, peut-être que le jeu est un peu plus chill avec le rythme, hein, mais vraiment, je suis en mode.
Si tu prends les mauvais choix, il y a des attentats terroristes aussi.
Bah c'est super. Bah là maintenant j'ai envie d'y jouer tout de suite.
Ça me fait penser au jeu de société
Smile. Ah il est incroyable. Pour le contexte, on y joue très souvent et il y a une carte attentat où du coup vous perdez vos enfants et souvent Mel a beaucoup d'enfants dans la partie.
Souvent des attentats, du coup c'est horrible.
C'est affreux, c'est très drôle ce jeu.
C'est affreux et bah du coup, il y a une scène, je vous dirai pas quand ça arrive, mais à un moment on rentre chez soi et on passe devant un immeuble et il y a 6 personnes qui sont au-dessus de l'immeuble et t'as en mode qu'est-ce qu'ils font là et la musique s'arrête. Et t'as une espèce de musique classique qui se lance. Et en gros, ils sautent tous en rythme. Et l'écran noir, et le reste. Et t'es juste en mode, qu'est-ce qui vient de se passer?
Ils étaient pas en accord. Ils se sont gourés sur le tempo, donc.
C'est ça. Et pour tout ce qui est attentat, évidemment, ça va être court. Hein. Comme a dit un grand homme Benda. Hein.
Oh là là.
Mais du coup, sur ce sera la fin de Game Pop. J'espère que ça vous a plu. Et on va passer tout de suite à la première musique. Et qu'est-ce qu'on va écouter, Claire, pour la première musique?
A Cowboy Never Cries de Oliver Tree.
On va écouter A Cowboy Never Cries de Oliver Tree. À tout à l'heure.
À toute allure.
I'm not good at goodbyes. I miss the sunshine in your eyes. Who said cowboys don't cry? Come on, baby, let's take one last ride. We're riding around this carousel, if you catch my drift. We're riding around this wagon wheel, she took me for a spin. We're riding around this carousel, getting dizzy till we're sick. Love is like a circle, there's no easy way to end. It's too much, I can't take anymore. Stuck feeling like we've been here before. But now the sun stopped shining here in the Wild West. My heart stopped beating and it sunk into my chest. Riding around this carousel, if you catch my drift. We're riding around this wagon wheel, she took me for a spin. We're riding around this carousel, getting dizzy till we're sick. Love is like a circle, there's no easy way to end. Just an outlaw who only had one friend. I wonder if I'll ever see her face again. Dark clouds hanging over, they follow where I've been. My cowboy tears are still blowing in the wind. We're riding around this carousel, if you catch my drift. We're riding around this wagon wheel, she took me for a spin. We're riding around this carousel, getting dizzy till we're sick. Love is like a circle, there's no easy way to end. I'm not good at goodbyes. I miss the sunshine in your eyes. Who said cowboys don't cry? Come on, baby, let's take one last ride. We're riding around this carousel, if you catch my drift. We're riding around this wagon wheel, she took me for a spin. We're riding around this carousel, getting dizzy till we're sick. Love is like a circle, there's no easy way to end.
On est de retour et on va tout de suite commencer avec Claire qui va nous parler. Tu vas nous parler de quoi, Claire?
Je vais vous parler d'Oliver Tree qu'on vient d'écouter à l'instant parce que j'avais envie de lui rendre un petit hommage. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, malheureusement, il est décédé à Rio de Janeiro et Je pense que même s'il était extrêmement populaire, c'est quelqu'un qu'on n'a pas connu assez. Donc je voulais effectivement prendre le temps de parler de lui un petit peu. Est-ce que je sais que JR, tu le connais un petit peu.
Oui.
Est-ce que Mel, tu connaissais?
Alors, le nom, non. Quand JR m'a dit « Ah, Oliver Tree est décédé et tout », j'étais « C'est qui ?» Et du coup, il m'a fait écouter une musique. Et quand j'ai écouté la musique, qui est la plus connue, « Life Goes On ».
Life Goes On. Nanana,
ouais, nanana. Voilà. Là, j'étais là « Ah, c'est lui !» Ah, d'accord. Ouais. Ok. Mais je suis pas une... C'est pas que je suis pas une grande fan, c'est juste que j'écoute.
C'est parce que t'écoutes, quoi, plus que ça, quoi.
Même pas, j'adore ses chansons et tout, mais c'est pas... Je sais pas, je suis... Bref, voilà, je sais pas comment expliquer.
Ah non, non, mais fair enough, hein. Très bien.
Mais par contre, j'adore ses musiques à chaque fois que je les écoute. Donc,
et ouais. Voilà. Et ouais, effectivement. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que ses musiques sont incroyables et la personne en tant que telle est vraiment, vraiment chouette. Au point où je me suis dit, on va aller jusqu'au bout de l'entreprise. Et je me suis renseignée pour savoir s'il y avait des mini-dramas à propos de lui et tout. Parce que je me suis dit, putain, vas-y, faut être honnête, faut être un peu mesuré. Et même avec ça, hein, vous cherchez Oliver Tree drama ou quoi, sur internet, il y en a quand même très peu, hein, vraiment. C'est un mec qui était plutôt impressionnant de ce côté-là. Donc, partons sur les bases. Donc, Oliver Tree, qui s'appelle Oliver Tree Nickel, en fait, est né en 93 à Santa Cruz, donc c'est un Américain qui vient de Californie. C'est quelqu'un qui a étudié l'art au lycée, qui était notamment au Institute of Art, mais en vrai, concrètement, il a un bac art. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est quelqu'un d'assez connu parce qu'il n'est pas seulement chanteur, il est aussi techniquement humoriste, il a fait un petit peu de rap, il a fait 10 ans de BMX, notamment. En fait, on parlerait de lui en disant que c'est un personnage de film, on l'entendrait.
Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Il faut savoir que non seulement c'est un chanteur très connu, il possède aussi le record Guinness du ride de trottinette, de scooter, mais en fait de trottinette, la plus grande du monde. C'est-à-dire que c'est un type qui un jour s'est levé un matin et s'est dit ah, elle est super sympa cette trottinette de 4,16 m de haut et de 3,13 m de long. Je vais monter sur des échasses et je vais le faire, quoi. Et il l'a fait. En personnage, c'est-à-dire avec son petit outfit très très connu, puisqu'il est connu pour avoir une coupe au bol, et à cette époque il avait des petites vestes violettes, bleues et tout. Enfin, pour moi rose, mais tout le monde dit violet, donc on va dire violet. Voilà. Et il l'a fait, quoi. Il est parti sur son petit scooter et il a gagné le Guinness Record à ce jour. Et la vidéo est encore dispo sur YouTube et tout, les gens peuvent la regarder, c'est hyper drôle. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un petit sketch et que c'était pas vrai. Et après, quand j'en ai reparlé, c'est pas une blague.
Ah non, c'est pas une vanne, d'accord.
C'est pas une vanne. Toi aussi, tu crois que c'était une vanne?
Oui, mais moi, j'étais juste en mode, ça a été fait avec des effets spéciaux, tu vois, genre.
Non. Parce qu'en fait, la question et la raison pour laquelle on peut se poser cette question, c'est que c'est un chanteur qui, effectivement, a beaucoup de clips hyper, hyper originaux, hyper stylés et tout, où il y a beaucoup, parfois, de petites cascades et tout. Et c'est vrai que souvent, c'est pas lui qui les fait lui-même.
Et surtout, il se représente toujours comme étant une espèce de loser magnifique. Fin...
Ouais, c'est ce qu'il dit. En fait, à chaque début de concert, il dit toujours « No matter how strange you think you look, no matter how ugly you feel, you are beautiful. » Qui veut dire « Peu importe à quel point tu te trouves bizarre, peu importe à quel point tu te sens moche, tu es magnifique. » C'est vraiment un type qui décide de juste pas accepter en fait ce qu'on lui dit, juste « T'es pas beau » ou quoi. Il s'en fiche. Il se dit « Non, moi, je me trouve magnifique. Moi, je suis magnifique en tant que personne. » Et c'est pour ça qu'il a un look complètement déjanté et vargeau. Au début de sa carrière, il avait genre une coupe au bol avec des outfits hyper loser, hyper flashy et tout. Et d'ailleurs, dont il se revantait. Hein. Cette première musique, non pas tellement, qui a marché, ça s'appelle Alien Boy. Et il en a créé d'ailleurs deux entreprises. Alien Boy Film, qui fait effectivement tous ses clips. Et Alien Boy Record, qui enregistre ses musiques aussi. C'est vraiment un type qui s'arrête pas à ce qu'on lui dit et qui pousse toujours plus dans l'art et le fait de créer lui-même. Pour vous dire, effectivement, c'est pas juste un type qui a étudié l'art. Il joue de la guitare basse, du clavier et du synthétiseur. Donc quand il était jeune, il jouait principalement notamment du piano. Il a commencé en faisant du rap, puis il est devenu DJ. Et ensuite, il s'est intéressé à tout ce qui est plutôt... un peu rock alternatif, un peu pop. Il aime bien être entre les deux. C'est effectivement le truc officiel de Spotify et tout. il essaie vraiment de jouer de tout ce qu'il aime, la dubstep, des trucs un peu zinzin, et il réussit à mélanger et faire un truc qui n'appartient qu'à lui et qui fait vraiment du bien. Parce que justement, il a commencé vers tout ce qui est 2016-2020, en une époque où la pop, c'était pas Doja Cat et tout, ce qui est très cool et tout, ça ne retire rien. Mais c'est vrai qu'on commençait à avoir un peu un truc qui stagnait, où c'était très souvent un peu le même style. Et lui, il est arrivé et il est parti à l'autre bout, quoi, en fait. Il est parti, il en avait mais rien à faire. C'est d'ailleurs hyper intéressant parce qu'il a, c'est un artiste américain et tout, et on pourrait se dire, bah forcément, il avait un label et tout. Pour commencer, il a commencé pour son premier EP qui s'appelle Demon par une compagnie qui s'appelle RNS, qui est belge. Je pense qu'il était vraiment pas assez connu pour ça, mais c'est un type qui est hyper débrouillard et qui a toujours su ce qu'il voulait faire. Il a toujours su qu'il voulait faire de l'art, il a toujours fait de la musique. Et du coup, il a commencé vraiment très très jeune, vers 17 ans à peu près, à déjà poster des trucs sur Internet. Si on mettait que sa carrière officielle, il aurait à peu près 5-6 albums. Mais en fait, non officiel, il y a au moins une trentaine d'albums. Il fait beaucoup de collabs, il a beaucoup, beaucoup travaillé avec beaucoup d'artistes. Et c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, à l'heure actuelle, depuis son décès, a beaucoup de retours et d'hommages qui ont été faits par plein d'artistes. Notamment des gens où c'est pas encore sorti, mais qui ont dit, bah, en fait, c'était un plaisir de travailler avec lui et tout. Donc, il faisait pas vraiment de discrimination, il restait pas dans son genre, il parlait à beaucoup, beaucoup d'autres artistes et il essayait toujours de faire des trucs plus originaux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faisait lui-même ses clips. Et notamment son dernier album, il l'a écrit tout seul, produit tout seul.
Putain.
Et non, mais vraiment, c'est dingue. C'est un travail de fou furieux, mais il était tellement dans son art que c'est impressionnant. Pour vous dire, donc, le premier album qui est sorti officiellement, c'était sous le pseudo de Tree. C'était pas encore Oliver Tree à l'époque, c'était juste Tree. Et c'était Splitting Branches, qui est sorti sous RAS. Ensuite, en 2020, donc 7 ans après, quand même, mine de rien, il a sorti Ugly is Beautiful, qui effectivement est relié à son petit mantra, encore une fois, de tout le monde est beau et tout ça, et vraiment de se dire, je suis super moche, donc je suis magnifique. Et il avait déjà un style vraiment hyper coloré, hyper... pas forcément feel good, mais avec des textes un peu profonds qui étaient vraiment super agréables à entendre. Mais comme il y avait Life Goes On, qui effectivement lui n'est pas sorti dans 2020 mais en 2021 sur la version deluxe qu'on appelle Ugly is Beautiful, Shorter, Thicker and Uglier, c'est-à-dire être moche c'est magnifique, en plus court, plus épais et plus moche. Et c'est là où il y a le Goes On qui est sorti. Et à chaque fois qu'il fait une version deluxe, le titre est ailleurs, en fait. C'est trop drôle. En 2022, donc un an après, il a sorti Cowboy's Tears, qui est effectivement son album. Puis la même année, a sorti la version de Lix, qui donc c'est Cowboy Tears, Drown the World in a Pool of Sorrow, c'est-à-dire les larmes de cowboy, noyer le monde dans une piscine de larmes.
Quoi ?
C'est tout le temps comme ça avec lui. Pareil, après en 2023, il a sorti un EP qui s'appelle Alone in the Crowd. Et effectivement, 3 ans après, à nouveau, on a eu cette année, en fait, un album qui est sorti qui s'appelle Love You Madly, Hate You Badly. C'est-à-dire, je t'aime plus que tout au monde à en devenir fou, mais je te déteste aussi énormément. Et c'est vraiment toujours des textes qui sont très centrés sur... dans tous ces albums, même s'il y a toujours un personnage un peu différent, c'est toujours des textes qui sont très humains, très centrés sur la personne, l'identité. Et tous ces textes appellent toujours à se dire, c'est quoi ? Tu te trouves bizarre parce que t'es pas l'impression d'être comme les autres ? Double down, double le truc. Sois encore plus bizarre, sois encore plus toi-même. Et effectivement, comme je vous disais, le type, il est arrivé en 2016. Il avait créé un personnage... Littéralement, il se présente pas comme en tant que lui-même, il se présente en tant que Turbo, qui était fan de scooter, qui s'habillait avec des pantalons de pattes d'eff, une coupe au bol, et qui se prenait jamais au sérieux. Il n'y a jamais aucun clip où il se prenait au sérieux. À la fin d'ailleurs de cette era, donc de 2016 jusqu'à 2021, du coup, il y a eu la fin de l'album Ugly is Beautiful, et il avait créé ce qui a été une de ses seules polémiques, un petit post, je crois que c'était sur Insta, avec un commémoratif, et il y avait une photo de lui au milieu, en mode, ah bah c'est la fin de l'era, et puis on a déjà fait la tournée mondiale, donc là c'est fini, il est mort, Turbo. C'est le seul drama parce qu'en fait, effectivement, ça avait été pris d'une photo qui avait été en l'honneur d'un membre de K-pop qui s'était suicidé. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dès que c'est ressorti et que les gens ont commencé à en parler, immédiatement après, il a retiré et s'est excusé. C'est pour ça que c'est vraiment un des seuls dramas, parce qu'effectivement, bon, c'était pas très très...
C'était pas très fin.
C'était pas très fin. Par contre, si ça avait été un autre commémoratif, j'aurais trouvé ça encore plus drôle de base, oui. Sans le drama, parce que j'aurais été en mode très drôle d'être en mode « Ah bah du coup non, il est mort, Turbo !» Et ouais, effectivement, ça aurait été extrêmement drôle. En 2022 commence une nouvelle ère. On a donc Shoney Bravo, qui est un cowboy, parce que du coup, il s'est sorti à la même année où Cowboy Tears est sorti comme album. Ok, et effectivement, du coup, on est sur un cow-boy qui parle de ses relations d'amour et tout. Il y a une musique qui s'appelle Cigarette, qui est extrêmement drôle. Il est en mode, ouais, par jour, je fume un paquet, je sais que ça me donnera le cancer, du coup, je fume plus de paquets pour oublier. Il se prend jamais au sérieux, en fait. C'est hyper drôle. Et c'est vraiment un cow-boy blond avec une coupe afro. Et c'est là où il y a justement la musique qu'on a écoutée tout à l'heure. Ensuite, à partir de 2023, il y a un personnage qui s'appelle Cornelius Cummings, qui littéralement s'habille en rose avec des énormes épaulettes et tout. Et il faut savoir qu'en 2024, il y a eu le festival Red Rocks où il était en Cornelius Cummings. Il a dit qu'il arrêtait la musique, qu'il avait besoin de se concentrer sur d'autres choses qu'il aimait faire, parce qu'il aime l'humour, il aime participer aux vidéos YouTube et tout. C'est là où effectivement, en 2025, sorti nulle part, il a sorti son nouveau projet, qui est son dernier album, Love You Madly, Hate You All Badly. Et il n'y avait plus de personnages. Il se présentait enfin comme lui-même. C'est un peu une apogée, une évolution par rapport à sa musique de base. Il est aussi connu au-delà de ça pour sa relation avec une artiste qui est beaucoup plus effectivement sulfureuse de ce cas-là, mais beaucoup plus très originale aussi, il est connu pour ça, Mélanie Martinez, pendant quelques années, où ils ont été ensemble et récemment... Ah oui, et ah on en parlera un jour. Oui. Et effectivement, de ce côté-là, même elle a mis un petit post en disant que c'était vraiment très douloureux pour elle de perdre quelqu'un avec qui ils avaient passé des années aussi structurantes pour eux deux, en fait. Et c'est vrai que dans tout, il y a eu des vagues d'amour de partout, même effectivement d'autres gens. Sa dernière copine, du coup, pareil, a mis un post en disant « On a traversé le monde ensemble, j'aurais voulu avoir notre année avec toi. » Un élan d'amour incroyable, même devenant d'autres personnes qui ont participé à sa vie, mais qui ne sont plus là. Tout le monde dit toujours qu'il traitait effectivement aussi tous les gens avec qui il travaillait comme de la famille. Littéralement, ses collègues traînaient avec sa famille. Même quand il n'était pas là.
C'est trop chou.
Et effectivement, il est décédé donc, le 14 juin au Brésil. Il était en train de promouvoir son album. Il faisait des vidéos sur Insta et tout. Il était dans les favelas en train de jouer au foot et tout ça. Et c'est d'ailleurs sa dernière vidéo avant son décès. Et effectivement, comme je le disais, il a gagné comme le record Guinness du monde en 2020 du scooter le plus grand. On lui donnera pour toujours puisqu'il le mérite bien, je pense. Et même à l'heure actuelle, et c'est la dernière chose dont je voudrais parler, c'est que quelques mois avant sa mort, il avait décidé de sortir un fonds d'investissement pour les jeunes artistes en développement qu'il a appelé le Dr. Oliver Street Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, qui est donc un fonds d'investissement pour les jeunes artistes qui est là pour les bébés génies, comme il dit, et qui effectivement permettra à des jeunes artistes, s'ils en font la demande, d'avoir des moyens pour pouvoir réaliser des projets artistiques. La seule condition qui sera mise en place, a priori, ce sera que les artistes ne pourront pas acheter le matériel avec, mais uniquement le louer. Le but, c'est de les pousser à l'indépendance aussi, petit à petit, afin que ce soit un peu un tremplin pour eux, mais que ce ne soit pas effectivement une solution de repli, et vraiment pouvoir les pousser à évoluer. Et l'idée, c'est que ce fonds est prévu pour durer entre 50 et 100 ans, et les gens effectivement pourront le demander. C'est sa famille qui s'en occupe, et là à l'heure actuelle, comme il est décédé, il y a eu une vague d'amour et de gens qui ont voulu envoyer de l'argent à sa famille et tout ça pour les aider, et ils ont dit non mais ça sert à rien. Donc ils ont mis un post pour retracer la vie d'Oliver, et ils ont effectivement dit tout l'argent que vous voulez nous envoyer, envoyez-le à la fondation pour pouvoir aider des jeunes artistes, parce que c'est ce qu'il avait voulu déjà de base, c'est ce qu'il avait prévu. Et même si c'est dramatique, il faut savoir qu'effectivement on a eu 6 morts dans cet accident d'hélicoptère dans lequel il est décédé, notamment le plus gros, en tout cas le plus connu youtubeur en Argentine. Et certains de ses proches devaient monter à bord avec lui, ils ne sont pas montés. Donc on a pas mal de témoignages récemment de gens qui disaient effectivement que c'était un peu horrible le destin, parce que là ils se sentaient, enfin, ils auraient dû finir avec lui. Oui. Et là, le 25 juillet, si jamais effectivement, moi je pense que je le regarderai, il y a un petit moment pour commémorer sa mort qui sera organisé au UCCS Quarry, qui est un endroit, et comme c'est pas un endroit qui est non plus giga grand, ils mettront en place un live pour que tous les gens qui veulent lui dire un dernier au revoir puissent être là et voir ça en direct aussi. Ce qui effectivement, je pense, remontre un petit peu, c'est que peu importe à quel point vous pouvez penser bizarre ou quoi, il y aura toujours ces albums pour vous être là et pour effectivement donner des trucs positifs. C'est vrai que maintenant qu'il est décédé, on voit les sous-tons, il y a une musique où il parle du fait de dire au revoir et de revenir en Californie. il est revenu en Californie, il restera toujours là. Et effectivement, je suis contente en tout cas qu'il ait été là. Donc je voulais vous en parler et vous inciter à l'écouter parce que c'était une personne très très bien, en plus d'être un bon artiste. Voilà.
Ouais, c'était touchant. Et c'était très bien. On va aller un peu plus vite parce que du coup, il y a la deuxième pause musicale qui arrive. On va écouter I Lit the Fire de Sarah Beth. Et après, on va finir avec une toute petite chronique qui durera pour pas plus de 5 minutes. Des bisous. À tout à l'heure.
À toutes. Do I always do this? I let myself fall when the writing's bright red all over the walls. I always go there when I say that I won't, 'cause I'm terrified of dying alone. Can't get a grip, losing my mind, trying too hard too much of the time. And all this bullshit, I put it on myself, looking for heaven while I'm dancing through hell. Going up in flames, but I lit the fire. Got no one else to blame, 'cause I ain't a good
classic.
Going up in flames, but I lit the fire. Got no one else to blame, 'cause I ain't a good liar. I'm a professional at digging holes that I can't crawl out of, so enjoy the show. Going up in flames, but I lit the fire. Yeah, I lit the fire. But I lit the fire. Wish I could pass the blame, but I ain't a good liar. I'm a professional at digging holes that I can't crawl out of, so enjoy the show. Up in flames, but I lit the fire. Yeah, I lit the fire.
Et du coup, on est de retour pour vous jouer. Attends, j'avais pas remis les. Là,
Claire, pour vous jouer des mauvais tours.
Bah, Claire,
à chaque fois, c'est le même coup.
Oui, bah écoutez, peut-être que je fais. On ne sait pas. Bon, pour finir cette émission, on va parler d'une BD dont on avait déjà parlé, du tome 1. Est-ce que vous vous souvenez de Shin Zero?
Oui.
Non.
Oui.
Alors, Shin Zero, c'est un manga slash BD qui met en scène, qui a été fait par Mathieu Babelais, et qui du coup est scénarisé par Guillaume, qui a été dessiné par Guillaume Saint-Gelin, et qui du coup est sorti dans le label 619. Le label 619, c'est un label qui, je crois, appartient à Ankama, si je ne me trompe pas.
Des bébous, finalement.
Des bébous. Et
des bébous français.
Des hiboux français. Et on avait parlé du premier tome parce que je l'avais beaucoup aimé. Et il faut savoir que j'attendais beaucoup le deuxième tome. Et le deuxième tome est sorti il y a 15 jours. Donc, je l'ai lu. Et comme je l'avais promis à l'époque, je vais donner un petit retour sur cette lecture, en sachant que je vous avais dit que c'était très prometteur, que j'avais beaucoup aimé. Pour rappel, imaginez que les Power Rangers soient dans notre monde réel. Et que tout simplement, aujourd'hui, il n'y a plus les Kaiju, parce que les Kaiju se sont fait tuer il y a environ une soixantaine d'années, et que du coup, ils sont toujours là. Mais en fait, ils servent un peu à rien, et que c'est une nouvelle génération en fait. Et du coup, ils servent un peu à faire des travaux d'intérêt généraux, à aider les gens. Enfin, voilà, ils sont un peu vus comme des losers. Et on va suivre 5 jeunes qui vont y aller, 5 jeunes qui ont des liens différents avec les Rangers. Certains parce qu'ils font partie de leur famille, d'autres parce que c'est leur héros, et certains juste parce qu'ils sont entrés parce que soit pour regagner un peu la confiance en fait avec la justice, soit tout simplement parce que il y avait leur ami d'enfance qui rentrait dedans. Ça pose beaucoup de questions sur la société. Il faut savoir que la première génération de Rangers qui aujourd'hui sont vieux sont victimes d'une véritable dégénérescence en fait des premiers trucs qu'on leur a donné pour se battre contre les kaijus, parce qu'en fait ce qui se passait à l'époque avant d'avoir les mécas géants, c'était en gros qu'on les mettait dans des machines pour les faire grandir énormément et se battre directement à la main au-dessus, et le truc c'est qu'en vieillissant
les stéroïdes plus
ultra, et le truc là-dedans c'est que en vieillissant on a eu un souci, c'est que ces stéroïdes sont devenus se mettent en fait en marche sans qu'ils le veulent. Donc on a des pépés et des mémés qui parfois ont des membres qui deviennent immenses ou qui eux-mêmes deviennent immenses, sauf s'ils ont leur traitement qui évidemment coûte cher, et que du coup le gouvernement qui c'est bien connu, on a rien à foutre de ces héros, les délaisse, et concrètement commence à dire on va retirer en fait de l'argent pour le traitement, ce qui peut être horrible. Pendant tout le premier tome c'est un peu teasé, dans le sens où tu dis à un moment ça va mal partir, et ça ne rate pas. À la fin du premier tome, un vieux devient géant et un des héros doit aller se battre contre lui, en sachant que moi personnellement ce héros c'est Warren, c'est le Ranger vert, et que personnellement je le trouvais détestable. C'est un connard, c'est un sale type, pour moi c'est pas loin d'être un incel, mais
c'est
voilà.
C'est un sale type avant de taper sur des vieux.
Ah oui, c'était un sale type avant de taper sur les vieux. C'est le mec qui est rentré dans les Rangers parce qu'il suivait son ami d'enfance et parce que globalement il voulait la baiser. Le mec est insupportable. Il est méprisant. Enfin, c'est un connard. Mais bon, la fin du premier tome se finit tout simplement par ça, avec Warren qui est monté au rang de héros, Satoshi le Ranger rouge est un peu en disgrâce parce qu'il a fait de la merde, Warren le Ranger vert du coup est considéré, Nikki qui est le Ranger rose continue sa lutte contre le crime, notamment le crime sexiste la nuit, et du coup va tabasser des gars qui agressent des femmes dans la rue.
Ça serait bien qu'on ait plus de héroïnes comme ça.
Sophia se bat toujours pour avoir de nouveau la vie, tout simplement c'est son enfant, tout en continuant à faire ses études d'avocate, et Héloïse, malgré que ce soit interdit, s'est lancée sur OnlyFans en tant que Ranger bleu.
C'est génial.
Et du coup on reprend quelques mois plus tard avec du coup tout ce beau monde qui a évolué, et une nouvelle menace semble pointer le bout de son nez, et est-ce que le groupe, qui ne sont pas les seuls Rangers, vont réussir à tout simplement aller bien. Vous le découvrirez en lisant le livre. Il faut savoir que j'ai adoré ce deuxième tome. La fin du deuxième tome m'a un peu fait mal au cœur parce que tout va pour le mieux. Il faut savoir que, encore une fois, c'est même pas un spoil, mais la croisade de Nikki va pas spécialement bien se finir. Il va y avoir le point final entre la relation entre Héloïse et Warren. Satoshi lui évolue, et il y a eu un moment dans le manga où déjà j'aimais pas Warren, mais pour une fois que Satoshi avait une bonne idée, il est venu tout gâcher, donc je ne dirai pas ce qui se passe, mais voilà. Sachez. Et puis voilà, on va surtout suivre aussi du coup Warren. Et que dire de Warren?
Je sais pas que tu le détestes.
Si, je pouvais le gifler, je le ferais gratuitement et indéfiniment. Et vraiment, il y a un moment, encore une fois, je ne vais pas dire comment, qui, où il s'est cassé la gueule. Je me suis surpris. J'étais en train de lire, donc il y avait plein de trucs où vraiment, genre, c'était un peu pesant. Et quand il s'est pris son poing dans la gueule, je me suis surpris à sourire, mais vraiment à sourire de toutes mes dents là. J'étais vraiment en mode ah, ça c'est bien, avec évidemment un discours qui va avec la personne contre qui il se bat, qui est très très bien. Le livre, encore une fois, on parle de passage à l'âge adulte, donc forcément il y a toute une question aussi de chacun prend son propre chemin et de qu'est-ce qu'on fait en fait quand chacun prend son propre chemin. Est-ce que c'est possible de rester ami avec des personnes qui au final deviennent peut-être l'opposé de ce que tu vas comme volonté, et comment est-ce que du coup tu fais pour évoluer et accepter cela et passer vers l'avant. C'est le deuxième tome sur 3, et je ne pourrais que le recommander. Ça parle un peu de notre société quand même, un peu, beaucoup quand même. Ça parle de le tome 1 parlait surtout du laisser aller envers les personnes âgées. Le tome 2 parle de beaucoup plus de trucs. Ça parle vraiment là pour le coup du début dans l'âge adulte. On parle de personnes qui ont notre âge, qui ont entre 20 et 30 ans. Je crois que la plus vieille a 35 ans dans les héros.
Oui.
Donc là, comment est-ce que tu fais ça? Comment tu fais pour t'occuper d'un enfant alors qu'au final, tu vis encore avec des enfants? Tout ça fait que vraiment, je te prêterai les deux tomes si tu veux, Claire, quand Mel aura lu le deuxième. Et puis,
j'attends
voilà.
que Mel m'apprenne à lire.
Oui.
Oui.
Et je vais m'arrêter de toute façon sur, sur ça parce que je vois qu'on est à la fin de tout ça. Et pour le mot de la fin, je vais simplement vous dire au revoir. Vous écoutez Radio G, 101.5 FM. Et c'était Pop Flash. Mel, le mot de la fin? Ok, pas de mot de la fin. Claire, le mot de la fin?
Chaleur. Bonne soirée à Rudy's Back qui arrive bientôt.
Des bisous.
Des bisous. Salut.
www.radio-g.fr